On est ici à l'MFR de Remingol, en bac pro commerce, ça va de la 3e jusqu'au BTS.
On est la classe de seconde à l'AMFR de Remingol. Donc l'AMFR de Remingol, c'est sur la commune du Fou.
Différent d'autres établissements, on a les cours de vente avec les profs qui ne sont pas là juste pour nous donner des devoirs, etc. Ils sont là pour nous accompagner dans nos études, pour le bac, etc.
C'est une école en alternance, donc on est à peu près la plupart du temps en stage.
Il y en a 21 dans l'année, 7 en commerce, 7 en bio, comme par exemple Biocop. Hein. Et le 7 dernières semaines de stage, vous pouvez faire ce que vous voulez.
La plupart des élèves sont à l'internat, donc 90% des élèves sont à l'internat. On est à peu près 60 dans la semaine.
C'est excellent, on s'amuse bien.
Moi, ce que je préfère, c'est le self, parce que les plats, ils sont préparés directement au self et ils sont locaux.
Ok, je commence à jouer.
Il dit, c'est trop, on arrête.
Mais...
Vous venez de jouer à Plein versus Climat. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment se déroule le jeu et ce que vous deviez faire?
On est 4 en tout, 4 équipes.
On avait au début de la partie plusieurs terres, donc une douzaine de cartes. On avait des graines et des cartes à piocher. Selon la carte, on gagnait ou on perdait. Et soit notre graine se transformait en arbre, soit elle ne pouvait pas pousser. Au fil des manches, on pouvait avoir des cartes événements.
Des feux de forêt, des tempêtes, des arrachements d'arbres.
De la déforestation.
Ou sinon, il y a trop de concurrents, donc les arbres ne peuvent pas pousser correctement.
À la dernière manche, le réchauffement climatique avançait et ça faisait un désert et on perdait des terres. À la fin de la partie, quelqu'un qui avait réussi à planter tous ses arbres gagnait.
Quelles sont les stratégies ou les adaptations que vous avez trouvées les plus efficaces pour aider les plantes à survivre quand le climat change?
Alors, on plantait nos graines plus vers le nord pour s'éloigner du désert.
Les plantes peuvent développer des feuilles plus petites pour éviter l'évaporation ou encore elles peuvent stocker de l'eau comme les cactus ou elles se reproduisent à un autre moment de l'année.
Et si une plante ne peut pas s'adapter assez vite, que se passe-t-il?
Quelles conséquences cela peut-il avoir sur les autres êtres vivants ou sur nous?
Et si les plantes elles meurent, les animaux qui s'en nourrissaient disparaissent aussi.
Ça change les paysages, l'agriculture devient plus difficile, ou encore on peut perdre certaines espèces ou devoir en cultiver d'autres.
D'après vous, que peuvent faire les humains pour aider les plantes à mieux s'adapter au changement climatique?
On peut modifier la façon dont on pratique l'agriculture.
Planter les espèces locales résistantes.
Et de chez nous, on peut économiser l'eau. Essayer de replanter des forêts et protéger les sols.
Ok.
Oula, Romain, non.
Ok.
Oula, fais pas de conneries.
C'est bloqué, Romain.
C'est bloqué.
Vous venez de jouer aux jeux concurrents ou associés dans le milieu terrestre. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que vous avez fait et ce que vous avez découvert?
Dans le jeu concurrent ou associé, nous avons reconstitué les chaînes alimentaires pour comprendre comment les êtres vivants dépendent les uns des autres dans la nature. On a commencé par observer les plantes qui captent la lumière du soleil pour fabriquer leur propre nourriture. Ensuite, on a relié les herbivores comme le lapin ou le chevreuil qui mangent ces plantes, puis les carnivores et les omnivores comme le renard ou le loup qui se nourrissent à leur tour d'autres animaux. Petit à petit, on a formé un grand réseau alimentaire où chaque espèce est connectée à une autre.
Dans le jeu, il arrive qu'on retire une espèce ou qu'on modifie le lieu. Qu'est-ce que ça provoque dans le réseau ?
Quand on retire une espèce ou qu'on change quelque chose dans le milieu, on voit tout de suite que ça provoque des déséquilibres. Par exemple, si une plante disparaît à cause d'une sécheresse, les herbivores qui s'en nourrissaient manquent de nourriture et les carnivores qui les chassent en trouvent moins aussi. C'est comme une réaction en chaîne. Quand un maillon est touché, tout le reste du réseau en subit les conséquences. Parfois, certaines espèces deviennent trop nombreuses parce que leurs prédateurs ont disparu. D'autres, au contraire, ne trouvent plus assez de ressources pour survivre. Ce jeu nous a aidé à comprendre que les écosystèmes sont à la fois très organisés et très fragiles. La moindre perturbation, même petite, peut bouleverser tout l'équilibre de la nature.
Un arbre, végétation, champignons, animaux,
feuilles, humus,
balade,
plaisir,
feuilles,
vélo,
terre,
écureuil.
Allez, venez avec nous les gens, on va aller dehors.
Ça s'appelle les quadras. C'est un truc qui est tout bête, ça consiste à prendre un carré comme ça. Et en fait, ça permet de dupliquer les observations. Par exemple, si on sort en groupe comme ça et qu'on veut observer biodiversité en forêt et comparer par exemple à la forêt, à la biodiversité dans les champs ou en ville, on va juste se mettre par groupe. poser le quadra et on va se fixer un temps, par exemple une demi-heure. Et pendant une demi-heure, en fait, les observateurs vont compter le nombre de passages. Soit ça peut être le nombre d'insectes total, mais ça peut être d'une espèce. Et le but, ça va être de compter pendant une demi-heure tout ce qui passe. Et le but de ça, c'est de reproduire à chaque fois les mêmes temps d'observation et de pouvoir comparer. C'est OK pour vous ou pas la méthode là? Ça marche? Est-ce que vous voulez...
Non, du coup, des cloportes.
Des araignées.
Des feuilles, beaucoup de feuilles.
De l'herbe aussi.
Énormément d'herbe, ouais.
De la terre. Gazon,
il y avait une bête bizarre, mais on s'en
fout. Si, il y a noyau, et après encore de la terre.
C'est
de la
terre, avec une petite bête. Avec des pattes.
Elle avait six pattes.
Bah non, c'est pas débile.
C'est débile.
Bah c'est vraiment pas débile.
Mais c'est le même champ en soi.
Mais c'est pas parce que c'est le même champ que
mais
ça
non,
veut dire que...
Mais pas sa logique.
Mais moi, les champs de mes grands-parents sont comme
en
ça.
En haut, il sert à rien.
Ça, c'est sûr. On a joué à un jeu où d'abord on devait placer les sillons de façon qu'ils soient horizontales pour que l'eau puisse avoir le temps de pénétrer dans la terre. Ensuite, on a placé les talus et les haies avant la rivière pour stopper l'eau, pour éviter qu'elle arrive du coup dans la rivière. Et pour finir, on a placé plusieurs espèces de plantes, donc, dont des radis, pour améliorer la qualité du sol, ce qui a réduit l'utilisation d'engrais.
Ouais, le fait d'avoir le talus, d'avoir une haie juste avant la rivière, ça va vraiment bloquer les écoulements avant la rivière. Donc si tu utilises des polluants dans ton champ, et bah, la haie ou ton talus va vraiment empêcher cet écoulement des eaux polluées. C'est tout en bas. Après...
Qu'est-ce que le bocage ?
Le bocage est un paysage commun en Bretagne. Il consiste à cultiver une parcelle de terrain entourée de talus, des haies aux lignes d'arbres.
Des arbres et des buissons qui séparent les champs.
Le bocage peut protéger les récoltes des intempéries.
Et pourquoi le bocage favorise la biodiversité, animaux et végétaux ?
Ça permet à leur développement, à ce qu'ils puissent se nourrir, à ce qu'ils se protègent grâce aux arbres, ça les cache, leur pelage et les arbres. Alors que s'ils traversent le champ, eh ben, ils ne seront pas forcément protégés et ils pourraient se faire attraper.
Pouvez-vous nous présenter et nous expliquer le jeu auquel le groupe a joué ?
Nous avions joué au jeu du labyrinthe bocager. C'est le même principe que le jeu de société labyrinthe.
En gros, le but, c'est que les animaux aillent chercher leur nourriture, donc tout ce qui est vert ou trucs comme ça. Ça se joue vers 4 joueurs, c'est ça ? Et il y avait quels animaux dans le jeu ?
Il y avait un hérisson, un écureuil, un oiseau et
une espèce de souris.
Un rongeur.
Le premier qui arriverait à récupérer tous ces aliments, en se déplaçant le long des haies, à gagner la partie.
Une haie.
Un champ.
Protection des espèces.
Biodiversité.
Agriculture.
Arbres.
Vers de terre.
Animaux.
Tracteurs.
Rivière.
Réserve de nourriture pour animaux.
Plantation. Talus.
Pierre.
Arbres.
Ce que vous voyez en face, du coup, c'est clairement un paysage bocager. Vous voyez tous les champs.
Les champs et les arbres autour.
Les champs sont entourés de petits chemins de haies, en fait. Alors que celui à droite, vous voyez la taille du champ par rapport au ceux de gauche ou pas ? Celui qui est plus foncé ?
Oui.
Bah, pour un agriculteur avec son tracteur, c'est quoi qui est le plus simple ? C'est d'avoir un grand champ comme à droite ou comme les plus petits à gauche ?
À droite.
Bah ouais, c'est beaucoup plus pratique. Du coup, dans une période où on voulait qu'il y ait plus de production agricole, et bah, on a favorisé les grands champs comme celui de droite. Sauf que bah, on se rend compte, est-ce que vous comprenez à quoi ça peut servir les haies bocagères là, par rapport au jeu qu'on vient de faire ? À quoi ça va servir ?
Des animaux.
Exactement. Toute la diversité, toute la biodiversité, les petites bêtes qui se servent de ces haies bocagères pour aller d'un endroit à un autre, même pour se reproduire, pour nidifier ou quoi que ce soit. Et bah dans un grand champ où il n'y a que 2-3 arbres, là, comme celui à droite, il y a beaucoup moins de moyens pour les petits animaux de survivre sur ces terrains-là.
De l'eau,
le sable, du sel, des poissons,
pêcheurs,
phoques,
poissons,
îles,
phoques,
algues,
vagues,
surf,
glaciers,
eau.
Pour la première expérience, nous avons mis un bocal rempli d'eau, refermé par un couvercle percé. Nous avons mis ce bocal dans un bac d'eau chaude et nous avons observé que l'eau ressortait du bocal par le trou. Cette expérience sert à visualiser la dilatation de l'eau.
quelle est la cause principale de montée des eaux sur la planète, en expliquant un peu le mécanisme?
Alors tout d'abord, il y a la dilatation des océans. C'est le fait que les molécules d'eau, d'H2O, vont s'agiter, enfin avec la chaleur, et donc elles vont prendre plus de place. Et ensuite, il y a la fonte des glaciers, surtout les glaciers terrestres, donc les montagnes, qui ont plus d'impact sur la montée des eaux.
Et comment adapter son logement au risque d'inondation ?
Ben, il y a plusieurs possibilités. D'abord, on a la création de dunes naturelles, qui doit être la moins coûteuse et la plus durable dans le temps. Et aussi qui est plus écologique. Ensuite, il y a la possibilité de faire des digues, mais il y a des limites aux digues. On ne va pas faire des digues de 5 mètres parce que ben, si on habite près de l'océan, c'est pour le voir et pas pour être entouré de murs. Donc on ne peut pas aller trop haut et il y a des risques de débordement si dans quelques années, par exemple, l'eau vient à monter plus haut.
On peut faire des maisons sur pilotis, des maisons flottantes et des digues.
Quel est l'impact de l'acidification des océans sur les organismes calcifiants et comment le démontrer ?
Dans les coquillages et animaux avec une coquille contiennent du calcaire qui se dissout au contact de produits acides. Pour le prouver, on a posé un coquillage dans du vinaigre qui est une solution acide. Ensuite, on a attendu de voir si l'hypothèse se confirme. On observe que l'acidité du vinaigre a rongé la coquille. Ça montre que si l'océan s'acidifie, ça peut provoquer leur extinction et donc l'extinction d'autres espèces par ailleurs. Et ça ne facilite pas leur évolution car la coquille ne peut pas se développer.
Nous avons réalisé une expérience avec du jus de chou afin de connaître la cause de l'acidification des océans. Nous avons réalisé l'expérience avec du jus de chou rouge car c'est un indicateur coloré.
Le chou rouge dilué dans de l'eau réagit avec le contact de la lessive, le bicarbonate, le vinaigre. Et la couleur change puis indique le pH avec un code couleur.
Si le jus devient rosé, c'est que c'est un acide et s'il devient plus bleu, c'est que c'est basique. Nous avons donc soufflé dans le jus à l'aide d'une paille, puis nous avons observé que le chou virait au rose. Nous avons pu en conclure que le CO2 que nous émettons acidifie les océans.
Lors du test de pH, le coquillage a réagi en milieu acide car le carbonate de calcium qui le compose se dissout en produisant des bulles de gaz.
L'acidification des océans impacte les organismes vivants. Il empêche la calcification des coquillages. Leurs coquilles peuvent ne pas se régénérer ou être endommagées.
Biodiversité, ça me fait penser à nature.
Forêt.
Biodiversité, ça me fait penser à espèces.
Moi, ça me fait penser aux animaux et végétaux.
Ça me fait penser aux êtres vivants.
Humanité.
Merci pour votre écoute, au revoir et à bientôt.
Bisous, bisous.